care about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Musique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Sophie Bourdet, Emmanuel Giuliani et Laurent Burey qui fait bêtise sur bêtise après avoir chuchoté, il touche son micro, ce qui est vraiment une chose à ne pas faire, surtout quand il est allumé, mon cher Laurent. Deuxième avertissement. À notre programme, la Dame Blanche, de la Maison des Morts, Schumann et Forêt. Nous ouvrons cette dispute. On a frisé l'avertissement total et l'exclusion de Laurent Burey. Qu'il se tienne à carreau. On ouvre la dispute avec La Dame Blanche. C'est un opéra de François-Adrien Boieldieu, direction dirigée ici par Julien Leroy, avec une mise en scène de Pauline Bureau. C'est à l'Opéra Comique que cela se donne. C'est là qu'il a été créé, cet opéra, le 10 décembre 1825. Le livret de Jane Scrim s'inspire de deux romans de Walter Scott. L'action se déroule dans un village écossais, dans les romans en tout cas, en 1759. Il y a un château qui semble à l'abandon, mais qui semble aussi être hanté par un fantôme. Autour de ce mystère, il y a des paysans, il y a une orpheline, il y a un soldat, amnésique, sinon c'est pas drôle, un intendant, un juge, corrompu, sinon c'est moins drôle. Tous vont être les personnages de cette diablerie pleine de rebondissements. Je dis ça, mais j'ai pas vu cette production, moi, encore. Hein, donc j'attends vraiment vos avis pour savoir si je dois me précipiter à l'Opéra Comique. Un premier tour de table rapide pour recueillir votre sentiment, Sophie Bourdet.
Bien, mon avis est très partagé. Ah. Je me suis assez copieusement ennuyée, mais ce qui m'a un peu consolée, c'était la prestation des musiciens, orchestres et chanteurs dans leur ensemble.
Laurent Burey.
Moi, je ne me suis pas du tout ennuyé. J'ai pris beaucoup de plaisir à revoir cette œuvre qu'on donne trop peu souvent. Et j'ai trouvé que la mise en scène balayait très efficacement tout un nombre de clichés.
Bon, Emmanuel Giuliani.
Plutôt comme Sophie, déçue par la mise en scène, même si je ne me suis pas ennuyée parce que la partie musicale et notamment la merveilleuse Elsa Benoît ont emporté tout à fait mon adhésion.
Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec Sophie Bourdet qui va nous donner quelques indications concernant la scénographie, les parties prises de mise en scène. Donc vous avez semble-t-il peu goûté, mais là c'est un exercice objectif que de parler de ce travail de Pauline Bureau.
Oui, Pauline Bureau, dont j'avais beaucoup apprécié la petite bohème de poche qu'elle avait mis en scène à l'Opéra Comique avec des parties pris, au moins deux parties pris assez semblables à ceux de cette Dame Blanche, c'est-à-dire une scénographie qui mélange des éléments réels et des éléments virtuels. Nous voyons donc une ferme écossaise dans un site pittoresque, c'est-à-dire exactement ce que demande le livret. Et cette ferme existe à la fois sous forme d'un vrai décor, l'entrée d'une ferme troglodyte, et un peu, comment dire, enfoncé dans une colline. Et cette colline, au-dessus, ce sont des projections vidéo, ce qui permet de nous montrer certains personnages qui arrivent et qui vont surgir à gauche du décor, ou de nous montrer cette fameuse Dame Blanche, ce qui est discutable, parce que d'une certaine manière,
la montrer,
c'est affirmé dès le départ. Donc on voit une très belle jeune femme en robe blanche avec de longs cheveux roux qui vole au secours des dames en détresse, tourmentées par des valets de ferme. Ça, c'est pendant l'ouverture. Donc on est assez persuadé de l'existence de cette Dame Blanche, c'est ça, c'est discutable. L'autre parti pris de mise en scène qui ne me convainc pas tellement, c'est de n'avoir rien coupé au dialogue. Alors que dans La Petite Bohème, Pauline Bureau avait fait un très beau travail de traduction et d'adaptation. Là, elle laisse tout tel que c'est, ou quasiment.
Et pour vous, c'est trop?
Eh bien, c'est beaucoup trop, parce que ça crée des tunnels. En plus, on a des chanteurs qui ne sont pas forcément des comédiens exceptionnels. Donc, eux aussi donnent l'impression de s'ennuyer. Et finalement, moi, c'est ça que je reproche le plus à cette mise en scène, qui a des côtés kitsch, qui est un petit peu carton-pâte, qui est un peu encombré. Mais le plus gênant, c'est pas tant la scénographie, c'est ce parti pris d'avoir gardé l'intégralité des dialogues vraiment très datés.
Bon, la description objective, c'est nous teinter très fortement de subjectivité, mais
oui,
vous êtes là pour ça. Mais bon, c'était pour avoir quelques images et idées sur cette mise en scène. Alors, Laurent Burey, lui, il a un avis tout différent, si j'ai bien compris.
Alors oui, je reconnais qu'il y a des côtés kitsch, mais qui me paraissent un peu assumés et voulus par certains côtés. Ce qui m'a plu et ce qu'a souligné la metteuse en scène elle-même, c'est que, sans toucher quoi que ce soit à la lettre du livret, elle a quand même voulu mettre en avant ce qu'il peut y avoir d'original déjà dans les rapports entre hommes et femmes dans ce livret, parce que finalement la Dame Blanche, c'est une femme extrêmement active, c'est une jeune femme qui décide de se déguiser en spectre, bon tant pis je l'ai dit, tout le monde le saura, mais qui fait ça pour sauver le château. Donc c'est quelqu'un qui prend le pouvoir en quelque sorte, et pour un opéra du 19e siècle déjà c'est quelque chose d'assez original. Bon, et là, ce qu'elle en fait, en son voix, puisque après tout elle s'utilise en fantôme, ben c'est fantomette, elle a un loup noir. Et ça, je trouve ça, alors oui, ça fait rire, mais en fait, c'est assez astucieux. Et cette héroïne qui pourrait être une pâle jeune fille un peu extrêmement cliché, là, ça devient justement un personnage qui est plein de vie, qui virevolte. Et je trouve que ça, c'était une très bonne idée.
Alors ça, je ne discute pas du tout. C'est l'apparition fantomatique du début.
Alors
dont je discute plus l'intérêt.
Moi, ça me dérange pas qu'on montre la Dame Blanche au départ, mais le problème, c'est que cette vidéo est trop longue. On la voit beaucoup trop longtemps. On la voit qui danse, qui saute, qui dirige l'orchestre. C'est assez ridicule. Ça, autant j'ai aimé tout le reste, autant cette vidéo pendant l'ouverture, c'est extrêmement dispensable. Ou du moins, il faudrait raccourcir la présence de la Dame Blanche.
Emmanuel Giuliani, la troisième voix.
Sur la mise en scène également. Oui. Alors, des goûts et des couleurs, on peut en discuter éternellement. Moi, je n'ai pas du tout aimé esthétiquement la mise en scène. J'ai trouvé en effet que même si on peut tout à fait assumer avec drôlerie et fantaisie le côté carton-pâte, le théâtre dans le théâtre, puisqu'en effet, elle joue un rôle. Ce château abandonné en réalité ne l'est pas. Ces paysans appellent le retour du noble à la tête de leur domaine. Enfin bon, toute une série de choses ce que Laurent a très bien dit sur le pouvoir féminin. Donc toute une série de retournements amusants, mais je trouve malheureusement que les couleurs, les costumes, la qualité des lumières qui surlignent les matériaux pas très élégants des décors, ça m'a un peu gênée. Je trouvais que vraiment il y aurait pu y avoir plus de raffinement dans la fantaisie, même dans le kitsch. Et voilà, donc ça m'a un peu gênée. Le jeu d'acteur est très au théâtre ce soir, mais pourquoi pas, parce que c'est bien fait, c'est pas du tout ni excessif, ni vulgaire, ni trop appuyé. C'est très bon enfant. Et ça marche bien, d'autant plus que, contrairement à vous, Sophie, j'ai trouvé, mais j'étais à la deuxième et vous étiez peut-être à la première. Donc je pense évidemment, il y a l'effet de détente qui se produit.
Oui,
et plus on avance dans les représentations, et plus ils sont à l'aise. Mais là, il passait très bien du texte au chant, du texte parlé au chant et du jeu très très actif au côté un peu planté là quand il s'agit de chanter son grand air ou les ensembles très très foisonnants, puisque c'est une des très grandes richesses de la partition. On va en parler.
On arrive à la partition. Laurent Murie,
juste un mot à propos des dialogues parlés et de la difficulté qu'il y allait dire. Je voudrais juste rappeler que la dernière fois qu'on a vu la Dame Blanche à Paris, à l'Opéra Comique déjà, c'était en 1997. Ils avaient engagé une grande voix, c'était Grégory Koundé qui chantait le rôle principal, sauf qu'il n'était pas en mesure de dire le texte en français et qu'ils avaient donc été obligés d'inventer un personnage de domestique du héros qui disait tout le texte à sa place. Ce n'était pas franchement théâtralement le plus réussi possible.
Ouais. Alors je n'ai pas vu cette production de la Dame Blanche, mais j'ai vu beaucoup de mises en scène de Pauline Bureau au théâtre. Il y a quand même toujours une efficacité dans la façon de raconter les histoires. Est-ce que vous avez ressenti cette efficacité? Parce que l'histoire peut être complexe de la Dame Blanche, pour l'avoir déjà vue autrement. Ça s'enchaîne bien, pas de temps mort, une sorte de rapidité ou pas? Pas tellement.
Mais je vais reparler des dialogues parlés.
Ah oui, cette problématique.
Ça ralentit tout. C'est terrible comme ça. Ça crée des effets, ce que je disais, des effets de tunnel. Donc c'est pas la faute de la metteuse en scène, mais c'est problématique.
C'est Laurent Burier, sur cette question.
Pour ma part, que certes, quand ça parle longuement, mais pour un opéra comique, il y a finalement très peu de dialogue parlé. Il y a d'énormes passages où la musique ne s'interrompt pas, ce qui est là aussi une des originalités de l'œuvre. Autant un opéra comique peut être tronçonné avec des petits bouts de musique et beaucoup de paroles, là ce n'est pas le cas en fait.
Alors on va tronçonner avec un peu de musique nous aussi, avec un extrait de cette production de la Dame Blanche, un duo de l'acte 2.
Au cœur de la crème, faire les endépaillés.
La voilà. Alors, musicalement, vous avez déjà évoqué ce nom qui va revenir sur vos lèvres, celui d'Elsa Benoît. L'œuvre, vous avez évoqué à l'instant, avant qu'on écoute cet extrait, Laurent Buris, cette particularité, effectivement, de cette longue plage instrumentale pour cet opéra comique. On commence par quoi ? Par La Fosse, peut-être, Emmanuel Giuliani ?
Pas mal du tout, La Fosse. J'ai eu un tout petit peu peur parce que les premières notes de l'ouverture, ça tanguait, ça grinçouillait un peu, mais ça a été vraiment l'affaire de quelques secondes. Et après, la direction de Julien Leroy, très éloquente à voir aussi. J'avais la chance d'être placée un petit peu en hauteur à la corbeille, donc je voyais bien sa gestuelle. Et elle, c'est une gestuelle qui est à la fois très enveloppante, très vive, très précise. Et donc, il a enchaîné les scènes, les airs, les ensembles, parce que vraiment c'est un tissage extrêmement sophistiqué à la mode de ces opéras du début du 19e, où on ne cesse de marier toutes les combinaisons musicales possibles pour suggérer des moments populaires, des parodies de grandes tempêtes, des hommages très nets. On a entendu les premières notes que chante Elsa Benoît, on pourrait être dans un récitatif à la Gluck, donc on est vraiment dans cette transition entre deux styles français, et ça il le réussit très bien, et l'Orchestre National d'Île-de-France épouse le mouvement, et ça, non, c'est une fosse de belle qualité, et on sait que l'acoustique de l'opéra comique est impitoyable, donc quand c'est réussi, on peut se dire que c'est vraiment une belle performance des instrumentistes et de leur chef,
d'accord,
auquel il faut joindre les cœurs.
Avec cette écoute, on en parlera peut-être.
Entièrement d'accord avec Emmanuel, j'ai trouvé l'orchestre d'autant plus impressionnant que moi je trouve la partition orchestrale pas extraordinaire, enfin c'est très bien fait, il y a beaucoup de métiers, mais elle n'a pas de génie particulier. On a un bel air de corps solo à un moment donné, on a la harpe qui vient accompagner les apparitions de la Dame Blanche, mais c'est pas la partition du siècle, enfin du 19e siècle en l'occurrence, et c'est très très bien dirigé, très très bien joué, c'est une très belle exécution.
Laurent Buris ?
Je suis tout à fait d'accord.
Carton plein.
Voilà.
Bon, alors passons au plateau vocal. Et on garde Elsa Benoît pour la fin, quand même.
C'est vous,
parce
chef.
Qu'elle n'est... Oh, pff, si peu. Je n'ai pas de baguette aujourd'hui. Par qui commencer sur ce plateau vocal, elle
Philippe
n'est pas Talbot. Seule.
Philippe Talbot, ouais. Oui. Mais il est très bien.
C'est bon.
Oui, enfin, il semblerait que ce ne soit pas... bon. C'est un vrai marathon, ce rôle de Georges pour un ténor. Mais c'était aussi le soir de la première. Je pense que c'était peut-être, il s'est peut-être détendu un peu après. Ça passait un peu en force. Il a chanté ça très bien. Il jouait aussi très bien. Il habitait son rôle. Donc on avait et le théâtre et la musique. Il a fait tous ses contrutes. Pas forcément toujours avec aisance, mais il en a fait un pianissimo qui était fort joli. Donc c'est peut-être pas le Georges dont on rêve, mais je ne suis pas sûre que le Georges dont on rêve existe actuellement, puisqu'il faut un ténor qui, comme disait Laurent, sache aussi parler très bien français pour la partie parlée, et il a fait du très beau travail.
Laurent Buris ?
J'ai assisté à la première également, il y avait un petit problème de manque de puissance pendant le premier acte. Philippe Talbot chante avec beaucoup d'élégance, il est tout à fait à sa place dans ce répertoire-là, il l'avait prouvé dans le Cantori, qui est une musique sensiblement comparable, de la même époque, du même style, pourrait-on dire. Là, pendant le premier acte, il y avait un petit déficit quand même sur ce plan-là, mais après, ça s'est beaucoup arrangé. Le deuxième acte et le troisième étaient très bien.
Et vous qui avez vu la deuxième représentation, donc Emmanuel Giuliani ?
Oui, je dirais à peu près la même chose. D'abord, c'est un chanteur extrêmement spirituel, c'est-à-dire il donne beaucoup de caractère à son personnage, à la fois naïf, qui a des pointes d'humour, notamment quand il évoque la condition militaire, avec parce qu'il y a plein d'ironie aussi dans l'œuvre et dans le livret de Scribe, qui n'est pas évidemment une tragédie de Racine, mais qui a pas mal de double sens et de choses finalement très très, très drôles et très piquantes. Et c'est un bon comédien qui donne à la fois de l'émotion. C'est vrai que son vient gentille dame qu'il susurre avec, mais c'est pas ridicule du tout. C'est ravissant ce qu'il fait. Alors c'est vrai que c'est pas une voix héroïque, et quand il faut donner un peu plus de puissance, on sent qu'il est à ses limites, qu'il n'y a pas de réserve derrière, mais il assume, il y va, il a une diction absolument parfaite, il est très joli garçon, ce qui fait que c'est un personnage crédible, et comme il est sur le plateau extrêmement souvent, presque du début à la fin, bah vraiment on s'attache à son personnage. Et je pense que dans ce genre d'ouvrage, c'est vraiment important d'avoir, sinon une identification, du moins une affection. Et on a une affection réelle pour lui.
Et vous vouliez parler des chœurs, avant qu'on en vienne vraiment à Elsa Benoît, Laurent Burey ?
Ah, les chœurs m'ont paru très bien, dès leur entrée. Et ils sont présents, en fait, pas constamment. Il y a des grands passages, on ne les entend plus. Mais chaque fois qu'ils sont là, ils m'ont semblé tout à fait bien en place. Et,
ce sont des éléments, c'est un vrai beau chœur d'opéra. Il est quasiment toujours convaincant. Et là, effectivement, on a l'impression qu'ils s'amusent aussi à composer leurs personnages, ce qui ne gâte rien. Donc, ils sont très bien.
Puisqu'on a dit s'amuser, je voudrais aussi peut-être signaler que la production ne tire pas excessivement sur le côté comique. On s'amuse, mais pour l'avoir vu, comme je disais, en 97, on n'a pas du tout poussé sur le côté ridicule des personnages secondaires, par exemple. Et ça, c'est aussi une très bonne chose.
Elsa Benoît. Emmanuel Giuliani, vous commencez à nous parler d'elle.
Oui, je suis... nous sommes très contents de l'entendre dans un grand rôle en France, même si elle avait déjà chanté une soirée, je crois, ou peut-être deux, mais une en tous les cas, en version de concert d'Agrippina, où elle faisait Poppée, Agrippina de Händel, l'an dernier, lors d'une tournée avec notamment Joyce Di Donato en Agrippina. Et voilà, les aficionados du Staatsoper de Munich ont souvent l'occasion de l'entendre dans des petits rôles et dans des plus grands rôles. Elle va par exemple chanter Nanette de Falstaff cet été. Elle a été Gretel, elle a été donc Poppée également dans une mise en scène de Barikowski l'été dernier. C'est vraiment une chanteuse française qui, pour le moment, a fait surtout sa carrière en pays germanique. Et c'est elle est vraiment parfaite. Elle a une voix magnifique, à la fois encore très fraîche, mais dont on sent tout le potentiel lyrique corsé. On se dit que d'ici quelques temps, vraiment des grands rôles seront tout à fait à sa mesure, et elle à la mesure de ses rôles. Pareil, elle a une très très bonne comédienne, une belle diction, et surtout, ce qui est formidable, elle joue donc à la fois la pseudo-dame blanche et la jeune orpheline Anna, qui tantôt est en effet une manipulatrice délurée et tantôt une jeune fille innocente, et elle joue ces différents personnages avec une caractérisation des couleurs vocales, des inflexions, des dynamiques, vraiment quelle musicienne ! Non, un nom tout à fait à retenir.
Quelques qualificatifs de plus, Laurent Burey, rapidement.
Alors, moi, jusque-là, je ne la connaissais que par DVD interposé. Je l'avais vu dans des DVD qui viennent de Munich, Les Indes Galantes ou La Favorite de Nizetti. Et j'avais déjà été tout à fait frappé, alors qu'elle n'avait pas non plus de très grand rôle à faire. J'avais été absolument frappé par la qualité de cette voix, par toutes les vertus qu'a énoncé Emmanuel. Donc, j'étais ravi de l'entendre ça a confirmé.
En vrai, c'est bien aussi.
En vrai, c'est drôlement bien aussi. Ouais.
Allez, mot de la fin, Sophie Bourdet sur Elsa Benoît.
C'était la vraie grande belle surprise de la soirée pour moi. Je l'avais jamais entendue. Depuis, je l'ai entendue aussi au disque dans l'Agrippina de Händel dont parle Emmanuel, qui vient de sortir chez Erato. Elle est merveilleuse. C'est un soprano extrêmement joli, brillant, pétillant. Et oui, on a envie de la réentendre très très vite.
Elle va chanter à Rissi, dans Hippolyte et à Rissi, à l'Opéra Comique, à la fin de l'année.
En octobre, moi, je crois.
Voilà, et ça, c'est une très grande ramiste, on le voit dans, en effet dans le... Voilà. Un petit mot pour dire qu'Yann Beuron, quand même, c'est toujours un tel bonheur. Oui. Et puis la beauté de ce timbre qui se met à baritonner un peu. Et pareil, une diction... à la Marc Moyon, dont on va parler dans quelques temps, je
crois. Tout à fait.
Absolument, ça va venir. Pour l'instant, nous parlions de La Dame Blanche, cet opéra de François-Andrien Boieldieu, dirigé par Julien Leroy, mise en scène Pauline Bureau. C'est jusqu'au 1er mars à l'Opéra Comique à Paris. Et puis, il y aura des dates l'an prochain, en janvier 21 à l'Opéra de Nice et en mars 21 à l'Opéra de Limoges.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure en effet de Marc Moyon et c'est surtout Sophie Bourdet qui nous en parlera avec Anne Le Bozec pour un disque. On parlera du nouveau CD des symphonies de Schumann par John Elliott Gardiner. Pour l'instant, cette dispute musique se poursuit avec un DVD, c'est la captation de La Maison des Morts de Léos Janáček dans une mise en scène de Frank Castorf. C'est dirigé par Simon Young, c'est un DVD et Blu-ray chez Bel Air Classique. L'opéra a été créé en 1930, il est adapté du roman de Dostoïevski. Les personnages principaux sont Gorianchikov, noble condamné pour activisme politique, et un jeune et doux tatar, Alieya, Luka, très agressif, Skouratov, le naïf, qui raconte sa vie à Moscou, le temps passe, un aigle torturé va retrouver la santé. Jusqu'à un soir où un spectacle doit avoir lieu dans la Katorga, le bagne. On sait que Dostoïevski a livré quelques-uns de ses souvenirs du bagne, mais il y a bien plus que ça. On était surtout curieux de voir ce que Frank Castorf, toujours très punk, malgré ses bientôt 70 ans, allait faire subir comme sort à cet ouvrage très âpre. Ben, on commence par là, et sur un premier sentiment sur cette mise en scène, Emmanuel Giuliani.
De très belles idées, mais in fine... vu sur le DVD, je n'ai pas vu le spectacle en réalité, un peu anecdotique,
Sophie Bourdet.
Anecdotique, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, il m'a fallu deux visionnages pour comprendre ce qu'il voulait dire. Je trouve qu'elle est très intéressante, sa mise en scène, mais on s'y perd assez facilement.
Laurent Burry.
Moi, j'ai surtout été frappé par la qualité de la distribution vocale et la proposition théâtrale est étonnante, mais à mes yeux, elle tient debout tout en étant un peu désarçonnante au premier abord. On va la détailler bientôt.
Ah ben, et même Emmanuel Giuliani va se livrer à cet exercice de la détailler un peu.
Exercice complexe.
Je sais, mais je fais appel à votre esprit de synthèse.
Ouf. Alors, que voit-on avisé. Avec un éclairage très violent et très découpé, voire sabré par des projecteurs qui évoquent ces projecteurs pour les cours de prison, qui viennent des miradors. Mmh. On a une espèce de baraquement composite avec une série de maisonnettes. On n'est pas du tout dans l'ambiance maison de poupée, mais il y a un côté, construction comme ça de pièces superposées les unes aux autres qui vont évoluer et qui vont être mouvantes. Et au milieu, en hauteur, une de ces maisonnettes fait écran, comme si à la place de la porte et de la fenêtre, il y avait un écran où vont être diffusées, devinez quoi, des vidéos. Ah. C'est la première fois que je voyais des vidéos dans une mise en scène d'opéra, donc j'en ai été bouleversée. Voilà, donc quand on se dit, tiens, il va y avoir des vidéos, lesquelles vidéos...
C'est-à-dire que Franz Castorf, depuis des années et des années, ne montre rien sans vidéo.
Voilà, absolument.
Une vidéo particulière.
Vidéo particulière, puisqu'elles mêleront à la fois des vidéos prises sur le vif pendant la mise en scène, en direct, que ce soit en premier plan ou au contraire ce qui se passe au fond, parce que derrière cet amoncellement de baraquements, il y a une grande profondeur de champ, et avec donc, je suppose que de la salle, on avait une impression aussi d'un premier plan et d'une très grande perspective lointaine, et j'imagine que ça faisait un très bel espace, ce dont on se rend évidemment un peu moins compte. Donc voilà, et là-dedans, les personnages, qu'ils soient collectifs, protagonistes, qu'ils soient au premier plan, en hauteur, en bas, derrière, devant, rampant, debout, se battant, isolés, en groupe, vont comme ça évoluer et être filmés en chantant, filmés alors qu'ils ne chantent pas, filmés mais remplacés par des images d'archives. En fait, tout un dispositif assez complexe autour de ce décor unique et perpétuellement mouvant.
Alors, cette complexité nécessite peut-être, alors, comme l'a fait Sophie Bourdet, deux visionnements. Vous en retenez quoi au bout de la deuxième vision, du coup?
Alors, dès la première vision, ce qui m'avait quand même frappé, c'est que ça donnait une idée très juste de l'enfer. Cet endroit est un enfer, et ça, on le saisit instantanément. Ce que j'ai plus compris au deuxième visionnage, c'est la façon dont il se sert notamment du personnage d'Alieia, en l'habillant au départ d'un costume d'oiseau de carnaval, très carnaval de Rio, j'imagine, même si je n'y suis jamais allée. Et en fait, Alieia est aussi cet aigle blessé dont s'occupent les prisonniers. Et Alieia ne redeviendra lui-même qu'à partir du moment où on ne parlera plus de cet aigle. Et ça, c'est très beau.
Et ouvertement féminin.
Et féminin, alors c'est possible, Yana Tchak avait envisagé que ce rôle soit chanté par
une femme. Très ouvertement, là,
mais c'est rarement,
cette
mise en scène. Oui,
c'est une femme-femme.
Oui, oui, absolument. C'est une femme, on voit ses longs cheveux. C'est assez beau comme idée, parce que ça réaffirme aussi la fragilité de ce personnage, son côté de victime potentielle de tous les gens qui sont là. Ça m'a beaucoup plu. Après, par exemple, on voit au départ ce fameux oiseau dialoguer avec un personnage qu'on identifiera après comme étant Gorianchikov, le noble qui arrive au goulag et auquel, je pense, Dostoïevski s'identifiait beaucoup. Et ça, je ne l'ai pas compris au premier visionnage. Il a fallu un deuxième visionnage pour comprendre ce qui se jouait à ce moment-là. C'est des choses comme ça, un peu compliquées, qui n'empêchent pas du tout qu'on puisse prendre du plaisir au spectacle au premier visionnage, mais qui rajoutent des strates. Je me dis que cette mise en scène-là, on doit d'autant plus la savourer qu'on la revoit.
Laurent Burie.
Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'était le mélange de réalisme extrême par moment, car on est effectivement dans une vraie prison, il y a des barbelés, les personnages sont ensanglantés, et très ensanglantés même parfois, ils sont très sales aussi. Mais à côté de ça, il y a des échappées, qui se multiplient d'ailleurs au fur et à mesure que le spectacle avance, vers un univers plus onirique, celui du carnaval, mais là pour le coup plutôt la fête des morts au Mexique, avec tous ces masques, ces chapeaux, ces plumes, c'est très beau, mais là pour le coup on se dit mais
ça va dans beaucoup de directions.
Qu'est-ce que c'est? Et donc ce qui est curieux,
il y a toujours chez Castorf, il y a toujours cette publicité Pepsi Cola dans tous ces spectacles, ce qui rajoute encore notre exotisme, si je puis dire.
Et donc il y a ce mélange entre le réalisme extrême et le rêve complet du carnaval, qui finalement crée un univers qu'on accepte tel qu'il est ou qu'on refuse d'un bloc, mais qui peut se défendre comme façon de représenter cet univers.
Et on peut le comprendre comme une envie des prisonniers d'échapper à la réalité.
Emmanuel Giuliani encore.
Ou que chacun a porté un lambeau de ce qu'il était avant, et que ça s'est comme fixé. Ça, pourquoi pas? Et comme vous, Sophie, et peut-être vous, Laurent, je trouve que l'idée de l'aigle est très très belle. Et à la fin, quand ses ailes s'en vont et le personnage va rester seul à la prison, les cas, son protecteur est parti. Et donc, on imagine que la suite ne va pas être toute rose, et débarrassé de ses plumes qui en faisaient en effet un être qui avait encore peut-être une possibilité de s'envoler. Et maintenant, c'est fini et bien fini. Moi, ce qui m'a un peu gênée, c'est que, justement, à la fois, c'est un ouvrage très collectif, mais avec des points de focus sur des personnes, avec des grands récits, notamment, qui sont les moments absolument sublimes de la partition, qui focalisent sur un personnage. Et à ce moment-là, je trouve dommage que, par exemple, comme le faisait Chéreau dans sa mise en scène, qui était beaucoup plus dépouillée, on ne fasse pas confiance à cette focale sur un seul personnage et qu'on ne débarrasse pas ou le plateau, ou en tous les cas qu'il y ait pas au même moment on filme la vidéo, etc. Parce que là, et c'est la magie justement de l'opéra et du chant, là on offre une espèce d'arrêt sur image où c'est la musique qui prend le pas. Et je trouve que là, la mise en scène devrait être un peu plus modeste et dire: Yana Tchek, là, c'est vraiment toi et toi seul, ou presque seul. C'est ce qui me gêne un petit peu.
Eh bien, à propos de ça, on va entendre un extrait du récit de Skouratov.
Tra Ich mit Duchem, ja, Tom im Schakelstream. Emo hol im Bitz, dies Prost, die Wojak. Sie hast du sie, ich geh ja, wo hol die Weiz, die Bus folgt sie. Zersch, ich seh sa Schelil. Und hol es mit ein Delat, es mim, ey. Ad, Kulasch, ich la rana, spadi. Schätzke, Chichi, ja, und Engel. Sono le stelle non volizi,
non volizi.
Alloisa, mai a te se genit, trasa o casali, cerna comida, che mi fili scomina.
Skouratov, c'est Charles Walkman qui, dans cette production, chante ce rôle. Parlons musique. Alors justement, on va faire l'inverse tout à l'heure. On va commencer par le plateau vocal. Du coup, Sophie Bandet.
C'est un très beau plateau vocal, très homogène. Alors Skouratov, Charles Walkman, est sans doute la meilleure surprise. Et Laurent disait qu'on allait donner une fausse idée de la Maison des Morts avec ce côté un peu guilleret.
Oui, ça sautille partout.
Skouratov, c'est le fou.
Ouais.
Et on est dans un moment de l'opéra où il raconte son crime, mais d'une telle manière...
Délirante.
Ouais. Qu'on a l'impression qu'en fait, lui, il est déjà passé à autre chose. Et Charles Walkman a une voix très lumineuse, très projetée. Donc c'est un moment, grâce à lui... c'est aussi une soupape dans cette atmosphère très, très lourde du bagne. Mais on a aussi... alors, je ne sais pas s'il faut parler des autres tout de suite. Mais
oui, parce que leur tourne est là.
L'autre grande voix, c'est Boscovus qui chante l'autre personnage, l'autre récit.
On connaît mieux.
Oui, tout à fait, et qui chante le personnage de Chichkov avec une intensité incroyable. On est mais littéralement aspiré par son chant. C'est un moment extraordinaire. Mais on n'a pas tellement envie de. Enfin, moi, j'ai pas tellement envie de distribuer des bons et mauvais points. Je les trouve tous très investis.
C'est le cas pour vous, Laurent Muret ?
Oui, quand même. Je voudrais parler de Peter Rose, qui est Grian Chichkov. C'est agréable d'entendre un chanteur qui est en pleine possession de ses moyens, qui a une vraie voix de basse, qui se fait entendre, et pas un chanteur un peu âgé, qui n'a plus tellement de voix, comme quelquefois on a tendance à choisir pour interpréter le rôle. Donc ça, c'est aussi une bonne, très bonne surprise. Chichkov, le Boscovus, qu'on a quelquefois connu un peu en difficulté parce que la voix n'est plus toute jeune, mais quand même, là-dedans, il est tout à fait impressionnant. D'autant plus qu'il porte des postiches, des horreurs, des extroissances, des extroissances sur le crâne et sur le visage, c'est absolument hideux.
Il a une maladie de peau, très
Voilà, c'est ça, c'est très, très, très laid. Et puis finalement, cette mezzo qui chante le rôle d'Alieya, donc on disait tout à l'heure.
Yevgenia Sotnikova.
Voilà. Justement, c'est ce que Janáček avait prévu. Il voulait une voix de femme pour le personnage. Et là, on a exactement ça. Ce qui est étonnant, c'est sa façon de jouer son personnage. Elle a l'air toujours un peu décalée par rapport au reste. Elle n'est pas autant les autres, justement, sont dans ce réalisme, cet investissement. Elle est toujours un peu, a l'air de marcher sur la pointe des pieds, mais enfin, la voix est tout à fait là.
C'est le côté meneuse de revue, un peu.
Alors ça, c'est pour l'oiseau, mais enfin, une meneuse de revue qui a perdu ses chaussures. Quoi.
Ouais.
Enfin, c'est
un peu particulier. Vous avez encore un mot à ajouter sur le plateau vocal
Alors, sur le plateau vocal, je suis tout à fait d'accord avec mes camarades, avec un vrai coup de cœur pour Charles Walkman. Moins d'accord pour Boscovus, qui est très intense, mais dont la voix, je trouvais quand même bien abîmée, qui chante pas bien juste. Et le dernier souvenir que j'avais en tête, c'était la production de l'Opéra de Paris, le revival donc du Chéreau avec Peter Mattei, comme vous savez, pas que moi, mais
on est quelques-uns.
Et c'était tellement extraordinaire ce qu'il faisait. C'est vraiment, voilà, j'avais un gros regret. Il faut parler de la direction musicale de
Simon Jung, dans la fosse, oui.
qui dirige cette musique magnifiquement, avec l'âpreté et la violence qu'il faut, mais aussi les scintillements, les délicatesses, les poésies qui sont d'autant plus douloureuses et qui font d'autant plus mal qu'il y a tant de beauté et de légèreté dans un univers si rude. Et c'est un des génies de cet opéra, c'est de mettre du soleil, des étincelles et des miroitements là où d'autres moins subtils n'auraient mis que des grands coups de percussion, des cuivres assourdissants et des cordes graves. Et donc elle magnifie cela et c'est très beau.
D'accord, Sophie Brandet.
À peu près. J'ai moins entendu les scintillements. J'ai trouvé ça un peu linéaire malgré tout. J'avais entendu ce qu'avait fait Salonen il n'y a pas longtemps à l'Opéra de Paris. J'avais trouvé ça beaucoup plus intéressant.
Et Laurent Buret, pour terminer.
Non, je trouvais que justement, ça s'entend exactement dès l'ouverture.
Ouais.
Ce que fait Simon Jung avec cette musique, c'est tout sauf de la lourdeur, sauf du clinquant, ce qui est une tentation qui peut très facilement venir au chef. Là, au contraire, je trouve qu'elle fait ça justement avec un doigté tout à fait admirable.
Qu'on peut entendre donc dans ce DVD ou ce Blu-ray de La Maison des Morts de Jan Hatschek, mise en scène Franck Castorf, direction Simon Jung, DVD Blu-ray chez Bel Air Classique, on ne l'a pas cité, c'est important de le faire. La réalisation de cette captation est signée Andy Sommer. C'est l'heure du coup de cœur de Sophie Bourdet pour un disque Forêt et ses poètes qui rassemble Marc Moyon et Anne Le Bozec. Alors, c'est Harmonia Mundi, il y a deux options, chère Sophie. C'est l'extrait avant que vous n'en parliez ou l'extrait après que vous en ayez parlé?
L'extrait avant.
L'extrait avant. Et on écoute. Quel est donc le projet de ce disque Forêt et ses poètes? Le titre donne peut-être quelques indications, Sophie Bourdet.
Alors c'est un disque où Marc Moyon fait comme Gabriel Fauré, il célèbre la mélodie française. Et Fauré a écrit à 16 ans sa toute première œuvre, son premier opus, qui était une mélodie, Le papillon et la fleur, qu'on retrouve en ouverture de ce disque, qui reprend à peu près, on va je crois de 1861 à 1906, qui reprend toute l'évolution du rapport de Fauré aux poètes de son temps et à la façon dont il a mis leurs œuvres en musique. Et c'est une double déclaration d'amour. On a celle de Fauré à la mélodie, on a celle de Marc Moyon et d'Anne Le Bozec qui travaillent ensemble depuis très longtemps. Leur déclaration à ce genre dont ils s'emparent avec, on l'a entendu un petit peu dans ce clair de lune, avec un naturel, une absence d'effet, une fluidité, quelque chose qui coule de source, qui rend ce disque absolument merveilleux.
Nous, on a l'impression d'être invité à une soirée qu'ils viennent jouer dans notre salon.
alors que ce sont des mélodies qui sont pas du tout faciles à interpréter. Mais c'est peut-être la suprême politesse qu'ils nous font dans ce disque, c'est de donner l'impression que ce répertoire va de soi. Il a été composé pour être joué dans des salons, mais ça se fait plus trop de nos jours. On a l'impression qu'il pourrait l'être, c'est pas sûr. Marc Moyon est un baryton avec un timbre très particulier, immédiatement reconnaissable, et un artiste qui aime les expériences. Donc c'est une nouvelle expérience. Je la trouve non seulement convaincante, mais absolument enchanteuse.
Forêt et ses poètes, ce disque de Marc Moyon avec Anne Bozek, est sorti chez Harmonia Mundi.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Le dernier sujet au sommaire de cette dispute musique ce soir, c'est un disque des symphonies de Schumann, numéro 1 et 3, dirigé par John Elliott Gardiner avec le London Symphonic Orchestra. C'est un retour vers ce corpus pour le chef d'orchestre. Il avait enregistré, gravé une intégrale il y a un peu plus de 20 ans. C'était à l'époque avec l'orchestre révolutionnaire et romantique. Un premier disque avait paru à l'automne avec les symphonies 2 et 4, cette fois donc les 1 et 3. Avec le London Symphonic Orchestra et le temps ayant passé, quel est le résultat? Je sens qu'on va avoir un débat d'experts qui va débuter après avoir écouté le début du quatrième mouvement de la symphonie numéro 1. Voilà pour cet extrait de ce nouveau disque des symphonies de Schumann par John Elliott Gardiner. C'est le deuxième de cette série avec le London Symphonic Orchestra. Premier tour de table sur cet enregistrement. Emmanuel Giuliani.
J'ai eu au début un peu de mal, non pas du tout avec l'interprétation, mais avec la prise de son, que j'ai trouvé un tout petit peu compacte et qui ne donnait pas, me semble-t-il, assez à entendre tous les détails, tous les plans sonores, tous les courants et contre-courants. Mais comme toujours, c'est comme dans les salles de spectacle, l'oreille s'habitue. C'est là où on voit qu'on a une belle plasticité sensorielle. Et une fois ces premières minutes passées, j'ai énormément aimé ce disque. Voilà.
Vous direz tout pourquoi dans un instant. Sophie Bourdet.
Ah, je suis tout à fait étonnée et séduite par cet enregistrement qui me réconcilie avec les symphonies de Schumann.
Vous étiez brouillée, je crois qu'il y avait un différent entre vous.
Oui, il y avait un différent entre nous, mais ce n'était pas leur faute. C'est parce qu'elles sont rarement données et que je les ai entendues probablement très mal jouées.
Et Laurent Bury ?
Moi, je ne suis ni pour ni contre Schumann, bien au contraire. Mais j'ai trouvé que le disque était exactement ce qu'on peut attendre de John Elliott Gardiner, compte tenu de tout ce qu'on a entendu faire ces dernières années. Et que, voilà, il fait...
Il fait quoi ? C'est quoi ? À quoi est-ce qu'on pouvait s'attendre ? Non, mais c'est quoi la méthode,
bien.
Selon
et
vous,
bien,
la recette Gardiner ?
C'est une version tout à fait dégraissée, déliée, allègre, svelte, preste, vivante, bondissante, prime sautière.
Bon, il n'y aura pas beaucoup de disputes, mais... Un approfondissement de ces écoutes critiques. Emmanuel Giuliani.
Alors, Gardiner l'explique parce qu'il explique toujours beaucoup sous forme d'interview ou de texte ce qu'il va faire, pourquoi, comment,
dans le livret
etc.
Du disque,
et là, dans le livret du disque. Ouais. Il explique que s'il revient à Schumann de cette façon, c'est après être passé très sérieusement par Mendelssohn. On sait que Mendelssohn et Schumann avaient une grande admiration l'un pour l'autre et que la mort prématurée de Mendelssohn, évidemment, a été pour tout le monde musical un vrai drame. Et que l'orchestre tel que Mendelssohn le conçoit, là ce qu'on vient d'entendre, on pense évidemment au Songe d'une nuit d'été. Toute la liste admirable d'adjectifs et de participes présents que Laurent vient de dérouler.
Il est très fort pour les adjectifs.
Entre autres, les substantifs, c'est pas mal non plus. Mais voilà. Voilà. eh bien, il y a tout ça dans l'orchestre de Mendelssohn, aussi dans son piano et dans sa musique de chant, mais là parlons orchestre. Et en fait, ce que Gardiner nous dit dans le texte et nous prouve par l'exemple avec le LSO, un orchestre avec qui il joue beaucoup et avec qui il s'entend très bien et qui est d'une immense flexibilité, c'est que, en effet, Schumann, comme dans Kreisleriana et comme dans Carnaval et d'autres œuvres pour piano, à l'orchestre, il n'est ni pesant, ni touffu, ni confus, ni abstru, ni abscons, comme on l'a dit parfois.
Pas mal aussi, comme énumération.
Mais au contraire, il est vif, il brille, comme les reflets du Rhin, comme les forêts allemandes au printemps ou à l'automne. Il est plein de saveurs, et populaire, et savante, et qu'on peut entendre tout ça si, en effet, on le restitue avec des tempi pas rapide pour être rapide, mais allant pour donner du mouvement, si on fait ressortir, quand il le faut, les solos d'instruments, si on fait attention à alléger les cordes, à faire une espèce de... On est souvent entre le staccato et le legato, c'est moins découpé et haché que du staccato, c'est moins voluptueux que du legato, on est dans un entre-deux qui doit être très difficile à réaliser et qu'ils font merveilleusement bien, et puis tout à coup, arrêt sur image, solennité, de cathédrale avec ce grand choral dans la Reine Anne que j'ai jamais entendu dans la symphonie Reine Anne, non pas la Reine Anne, la Reine Anne, rarement fait comme ça. Et là, on voit que Gardiner, Mendelssohn et Bach, bien sûr. Et là, il nous sort les cantates de Bach concentrées en un mouvement schumannien. Enfin, non, c'est très, très, très beau.
Bienvenue au concours d'éloquence de la dispute. C'est au tour de Sophie Bourdet de nous parler de ce nouveau disque des symphonies de Schumann.
Déjà, je suis d'accord avec tout ce qu'ont dit mes camarades. Je rajouterais, moi, ce qui m'a énormément plu dans cette interprétation, c'est que Gardiner y met énormément de théâtre. Alors, c'est la moindre des choses dans l'ouverture Manfred, qui entre les deux symphonies et qui est chargée d'un drame qui est chargée de tragédie, et ça, c'est très, très bien rendu. Mais le théâtre, on l'a aussi, et dès le départ, dans la symphonie Rhénane. Donc, il se passe toujours quelque chose, c'est extrêmement vivant. Moi, c'est ce que j'aime le plus, parce que cette symphonie Rhénane, je l'ai entendue, mais charriant des limons tout à fait envahissants, et du coup, nous laissant vraiment sur la rive à regarder ça en se disant bon. Et là, pas du tout. Là, on est emporté dans le flot du début à la fin et c'est extraordinaire.
Laurent Bury, à présent.
Je ne sais pas, que vais-je pouvoir trouver encore?
Je peux vous poser une question idiote?
Oui, j'adore les questions idiotes.
J'en ai plein,
je
moi.
Je peux faire une réponse
je suis assez connu pour ça. Non, vous ferez une réponse brillante. Pourquoi un premier CD avec les symphonies 2 et 4 et là les 1 et 3? Est-ce qu'il y a un truc pair-impair? Pourquoi il a appareillé? Apparé, comment on dit? Je ne sais plus.
Apparié,
merci. Vous voyez, non seulement elles sont idiotes, mais mes questions sont pleines de fautes de français.
Alors là,
ah,
je n'ai pas de réponse.
Non, je me suis demandé, je trouvais ça curieux, pourquoi commencer 2 et 4 et 1 et 3?
C'est pas du tout.
Ah, je vous ai collé, alors là, c'est vraiment le meilleur, le plus beau jour de la semaine.
Pas du tout.
Je plaisante, mon cher Laurent.
C'est pas du tout.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on entend dans ces 1 et 3? Pourquoi cet enchaînement et qu'est-ce que ça produit chez vous?
D'abord, elles ne sont pas enchaînées, il y a Manfred entre les deux.
Non, bien sûr, il y a Manfred entre les deux, comme il vient d'être dit.
Ça produit en moi, mais je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure. Une alacrité...
Non, je ne peux pas croire que John Elliott Gardiner fasse ça tout à fait au hasard, d'avoir choisi de faire 2 et 4, puis 1 et 3.
Il ne s'en explique pas dans le texte d'accompagnement du
livre. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Alors lui qui donne toutes les réponses aux questions que nous ne nous posons pas, s'il ne nous donne pas les réponses à celles que nous nous posons, on est mal parti.
Bon allez, je vous embête plus, Laurent. Qu'est-ce que vous avez comme adjectif encore dans votre besace pour qualifier ces disques ? Et ils se fongent le front. Je donne des images, on est à la radio.
Oui, oui.
Non, le LSO, on peut quand même en parler, sur le Lyndon Symphonic Orchestra, qui est quand même... qui arrive à garder une qualité depuis quand même de très très nombreuses années, avec des chefs qui se sont succédés, qui sont quand même assez différents. Emmanuel Giuliani.
Oui, oh bah c'est un magnifique orchestre. C'est un orchestre qui est à la fois extrêmement, comme l'a dit Sophie, qui peut être très théâtral, très plastique, ductile, vivant, pouvoir avoir des sons à certains moments pas très jolis parce qu'on lui demande, et puis tout à coup on a l'impression qu'on est face au Philharmonique de Berlin. C'est un orchestre qui a beaucoup joué aussi ce répertoire Mendelssohn, en particulier avec des chefs comme Abbado par exemple, qui a eu un compagnonnage avec le LSO extrêmement riche, et c'était la période tellement vivante et lumineuse d'Abbado. C'est un orchestre qui a tous les états de la lumière, depuis les lumières annonçant l'aura jusqu'au lumière très très fraîche de l'aube. C'est un magnifique orchestre qui, pour employer une expression un peu fastoche, c'est un orchestre qui se la joue pas. Il y a des orchestres, ils arrivent, ils sont très opulents, ou ils sont très brillants, ou vous allez entendre mes cuivres, ou regardez mes violoncelles, il n'y a pas plus beau. Là, tout est bien chez le LSO. C'est un peu comme le concert de Gebo d'Amsterdam. Peut-être que, sauf les grands spécialistes, on reconnaît moins immédiatement leur sonorité, mais ils sont capables de tout faire.
Tout faire très très bien.
Et tout faire très très bien.
Laurent Burry avait trouvé quelque chose à ajouter.
Oui, pour 1 et 3, 2 et 4. Ah. Alors déjà, d'une part, il a dû se dire ça va bien étonner Arnaud Laporte.
Ouais.
Je pense ça déjà.
Ouais, ça,
et puis peut-être que 1 et 2, l'idée aussi, c'est de n'avoir des œuvres qui ne sont pas exactement de la même époque, parce que s'il avait fait 1 et 2, c'était des choses peut-être plus proches dans le temps, alors que là, justement, ça lui permet de couvrir davantage l'ensemble de la carrière de Schumann.
Ouais, mais il aurait pu commencer par 1 et 3. Moi, les choses ne m'embêtent plus. Parce que le premier qui est sorti, c'est 2 et 4.
C'est vrai.
Bon, j'arrête là-dessus.
Je vais réfléchir pour la prochaine émission.
Vous avez une réponse, Sophie Bourdet ?
Non, je n'ai pas de réponse à ça. En revanche, j'avais quelque chose à ajouter pour le London Symphony Orchestra.
Ouais.
Je trouve ça intéressant, à une époque où on demande de plus en plus à des orchestres sur instruments d'époque de s'emparer de ce répertoire-là, de le faire jouer par un orchestre sur instruments modernes et d'être quand même complètement dans le style et la philosophie qui conviennent.
Ce CD donc, alors on peut se procurer les deux, comme ça on est 1, 2, 3, 4 et on se pose plus de questions, les symphonies de Schumann.
Et
l'ouverture en effet de Manfred. Et on peut faire dans le sens, dans l'ordre qu'on veut chez soi. C'est toujours dirigé par John Elliott Gardiner, et donc c'est avec le London Symphony Orchestra, qui est producteur lui-même de ses enregistrements. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de maison de disques, c'est le LSO vraiment qui produit ses CD. Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute et le lâcher de l'heure qui nous a rejoint comme chaque soir. Et d'abord, pour nous rappeler la question du jeu d'hier et nous donner sa réponse, Lola.
Qui a publié en janvier dernier le roman intitulé « Une machine comme moi » ? Et la réponse est Yann McEwan.
Lisez absolument ce magnifique roman. À gagner ce soir des invitations pour aller assister au Festival du film et Forum international sur les droits humains. C'est à Genève, ça se déroule du 6 au 15 mars. Quelle est la question, Lola ?
Quel film ouvre cette 18e édition du festival ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Elsa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Lola Schiedler. Prise de son ce soir, Anthony Thomasson. Réalisation, Émilie Vanin. Toutes les informations de cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel on peut également réécouter ou podcaster nos émissions. On se donne rendez-vous demain à 19h pour une dispute art plastique. Je serai en compagnie de Corinne Rondeau, Sally Bonne et Stéphane Coréard. Nous parlerons de Van Eyck, Révolution optique, c'est au musée des Beaux-Arts de Gand. Ulla von Brandenburg, c'est au musée au Palais de Tokyo, à Paris. Une exposition de Nina Childress à la Fondation Ricard. Et enfin, un coup de cœur de Stéphane Coréard pour l'exposition Nitanjung, la reine du volcan Agung. C'est de la galerie Patricia Dorfman.